midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Plateau à 2 millions de dollars aujourd'hui avec Steve qui est là. Bonjour Steve.
Salut, salam, shalom.
Spécialiste en chirurgie esthétique des émotions, auteur de Karma Sutra, bientôt en poche. Patrick Soulaï est avec nous. Hola Patrick.
Hola Philippe, hola tout le monde.
Ouais, formateur en process communication. Et Joël Dicker est avec nous. Bonjour Joël.
Bonjour Philippe.
Écrivain et entrepreneur aujourd'hui.
Oui.
Éditeur. On en parlera tout à l'heure.
Plaisir.
Vous publiez l'affaire Alaska Sanders chez Rosie and Wolfe. Schkoon, Rosie and Wolfe.
Je ne suis pas éditeur. J'ai créé une maison d'édition, ce qui est pareil, mais différent quand même. Et une maison d'édition parce que mon éditeur est mort il y a maintenant 4 ans. Et que pour lui rendre hommage, je me suis dit qu'après lui, il n'y en aurait pas d'autre. Et j'ai monté ma propre maison avec la question de me dire comment je l'appelle. Je ne pouvais pas l'appeler par mon nom parce que ce n'était pas le but. Et je voulais quand même donner l'idée de ce que je voulais faire, c'est-à-dire lire, faire lire, raconter à mes lecteurs pourquoi j'ai aimé écrire et lire. Et ces deux personnes qui ont été importantes quand j'étais enfant, Rosie, qui était une femme qui m'a donné envie de lire, donné la curiosité de lire, et puis Wolf, mon grand-père, qui m'a donné envie d'écrire.
Ouais, vous savez que les écrivains ont la réputation d'enjoliver les choses. Joël, est-ce que c'est la vraie histoire ou c'est du storytelling?
Non, c'est la vraie histoire.
C'est la vraie histoire.
C'est la vraie histoire.
Ouais. Vous ne pouviez pas survivre aux éditions de Fallois. Il y a une rumeur qui court dans Paris, c'est que finalement, personne ne serait venu vous chercher que les grandes majors.
Oui, c'est vrai, il y a cette rumeur.
Ah, les rumeurs. Ouais.
Que les grandes...
Ça, c'est des belles histoires.
Ouais.
Et grand... Il a créé sa maison d'édition parce que personne n'est venu le chercher.
Le pauvre, il a créé sa maison. Non, ouais. C'est une rumeur. Non, quand de Fallois est décédé, il avait donné pour consigne que sa maison ne lui survive pas. Alors, on a un peu triché avec son vœu parce que les éditions sont quand même restées ouvertes encore 4 ans, 3 ans et demi. J'avais envie de continuer avec eux, mais il fallait quand même que son souhait soit respecté. Et donc je savais, quand j'ai fait paraître mon précédent roman L'énigme de la chambre 622, je savais que c'était le dernier avec eux, parce que je savais qu'ils fermaient à la fin de l'année 2021. Et j'ai eu des propositions, évidemment.
Qui
Mais on peut pas dire.
Enfin. Non, mais si, c'est intéressant. Et combien
qui vous a courtisé?
J'ai pas donné vraiment suite. Il y a pas eu. J'ai assez vite fait comprendre que. J'avais pas envie de rejoindre un éditeur traditionnel, pas par snobisme, mais parce que j'avais vraiment cette idée que Barnard m'avait tout donné et que j'avais l'impression que aller chez quelqu'un d'autre, c'était le trahir. Je voulais pas ça.
Donc contrairement à ce qui se dit dans Paris, ils sont venus avec leur chéquier en disant viens chez nous.
Ils sont venus pour discuter et j'ai dit moi je crois que j'ai besoin de mener mon projet tout seul parce que c'est un projet de vie, voilà.
J'invite souvent les gens à avoir un mentor au mentoring, parce que je leur dis que c'est qu'on part souvent de là où lui il est déjà arrivé. Quels sont les conseils que votre mentor vous a donné que vous appliquez encore au quotidien?
La curiosité.
Waouh.
Ouais. Le doute, mais le bon doute. Vous savez, on a le sentiment que le doute c'est quelque chose de mauvais, ce qui peut être le cas, hein, parce que le doute c'est quelque chose qui peut nous prendre, nous empêcher de faire quelque chose parce qu'on n'ose pas. Et en fait, le doute, ça peut être quelque chose de très bon, de très bien. Parce que le doute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on s'arrête, on réfléchit, on va essayer de comprendre. Et pour comprendre ça, c'est la curiosité de comprendre, de découvrir. Lui, il me disait toujours, on va poser la question. Allez poser des questions, allez demander, allez interroger. Même si vous faites quelque chose qui fonctionne bien, et comme vous le faites, ça marche, allez quand même demander à ceux qui le font aussi ailleurs, dire mais comment vous faites-vous ça? Parce que souvent, vous allez voir que ça va vous étonner et que même dans votre vérité, vous avez l'impression que vous avez raison, vous êtes entre guillemets juste, vous avez peut-être tort, vous pouvez peut-être faire quelque chose de mieux.
Est-ce que le doute, ça fait aussi partie de votre processus créatif?
Beaucoup, ouais. Moi, je travaille que avec le doute parce que j'ai pas de plan. Ouais. J'ai pas de plan, donc je pars de mon roman avec rien d'autre que l'envie, ce qui est déjà pas mal. Je veux écrire un livre, j'ai envie de raconter une histoire. Il y a une envie de storytelling, hein, le mot avant. Il y a une envie de raconter quelque chose. Mais de ne pas avoir de plan, ce n'est pas une prouesse. Mais pour moi, c'est important parce que ça veut dire que justement, je vais essayer d'aller découvrir, comprendre, me perdre. Alors, c'est compliqué. Je me perds souvent. J'efface beaucoup. Je reviens en arrière très souvent.
Dans les forêts?
Dans les forêts, dans les routes, dans les sentiers. Mais ça me permet d'aller, de découvrir des indices, des intrigues, des personnages que je n'aurais probablement pas conçus avant. Et je pense que ça explique aussi pourquoi mes livres sont assez épais, sont assez longs. Je pense que si j'avais un plan en me disant, bon, moi, je vais faire un livre où il se passe ça, 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 et encore ça, 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 je me dis, non, mais stop, il y a trop. je couperais probablement un tiers ou deux tiers. Enfin, je me dirais, bon, là, on va faire début, milieu, fin, puis voilà. Alors que là, de ne pas avoir de plan, ça me permet vraiment de rebondir, de reprendre, et ça me plaît.
C'est vrai que j'ai écumé les interviews de vous là pour ce livre, et à un moment, vous dites que vous ne saviez pas au début du livre qui allait succomber, vrai. Qui allait, en fait, et qu'au fil du temps, en fait, vous le découvrez vous-même, en fait,
ouais,
avec les personnages.
Oui. Alors, dans le précédent livre, c'était encore pire parce que je ne savais pas qui était mort. Ça commence par moi. Et je ne sais pas qui est mort. Et on le découvre qu'à la page 300 et moi aussi. Et après, il me faut encore 300 pages pour savoir qui a tué le mort. Et dans celui-ci, il y a juste un mort de base.
Oui, elle est morte tout de suite.
Elle est morte tout de suite. On l'a vu en
effet. Vous ne saviez pas qui l'avait assassiné, en fait.
Je ne sais pas qui l'a assassiné.
Voilà, c'est ça. Je trouvais ça dingue quand même. Parce que moi, j'ai un processus complètement différent. En fait, je parle de la structure.
Ouais.
Comme toute maison d'édition, on te demande la structure, le truc, rassure-nous. Ça va pas partir en vrille, quoi, tu vois.
Mais alors, ce qui est bien aussi, ouais. Ce que j'admire.
Ouais.
D'être capable, justement, de faire un plan.
Mais quand j'ai vu ça, je dis, c'est carrément génial, en fait, parce que tu découvres toi-même. Donc, tu crées, il y a beaucoup de descriptions dans le livre, et c'est incroyable, en fait, toi.
Ben, merci, ça me ramène aussi à l'essence de ce que je veux faire, parce que j'ai une chance incroyable d'avoir le succès que j'ai avec des lecteurs qui sont hyper présents, qui m'écrivent beaucoup, qui me contactent beaucoup. Que je vais voir là dans les librairies, ce qui est à la fois une expérience folle et dingue, parce que quand tu écris un livre et que tu as autant de gens qui viennent t'en parler, c'est bien finalement, il y a un truc qui est fort, mais il faut aussi que j'arrive à me détacher de ça et à me rappeler que j'écris d'abord pour moi, et je ne dis pas du tout comme un truc démagogue, pour dire qu'en fait, quand tu as des gens qui attendent ton livre, des fois, il faut arriver à se poser la question de pourquoi tu écris. Ce que je ne me posais pas tellement quand j'écrivais des livres que personne ne lisait, mais alors pas du tout, et qui était refusé par les éditeurs, la famille disait « Ah, t'as encore écrit un livre ?»
Vous en avez fait qu'un, le premier qui n'a pas été très lu, je crois.
Non, j'en ai fait cinq avant.
J'ai
fait
cinq romans. Moi, je suis resté sur celui de La Guerre, que vous avez écrit jeune.
C'est le premier qui a été édité.
Édité, oui, tout à fait.
Mais avant celui-là, il y en a quatre que j'ai écrits, et qui ont été tous refusés par les éditeurs.
D'accord.
Et au fond, quand votre livre il est refusé par tous, ben, vous ne vous posez pas la question de pourquoi vous le faites. Vous le faites parce que vous avez les tripes, vous avez envie, vous avez cette rage, vous dites « mais je veux le faire, j'ai envie d'écrire ». Et c'est évident, puisqu'il n'y a pas cette récompense du lecteur à la fin. Et du moment où vous avez le succès et ces lecteurs, ce qui est génial, mais en même temps, je trouve hyper important, en tout cas pour moi, d'arriver à me distancier de ça, de me dire « attends, est-ce que j'écris parce que j'ai des gens qui me lisent et c'est chouette, mais ce n'est pas une bonne raison ?» Ou est-ce que j'écris parce que j'ai vraiment quelque chose que je veux raconter? Et ça, c'est un élément qui est important. De pas avoir de plan, justement, de pas savoir ce qui se passe, d'être dans quelque chose qui est pas cadré du tout, ça me permet de me ramener vraiment à cette envie primale, primaire, mais qui est pour moi un guide très important.
Mmh. Et je me suis demandé si, dans votre livre, en fait, il y a des choses cachées. Je parle en particulier de Salem. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à Salem. Je vais pas spoiler. Mais est-ce que ça a un rapport avec la chasse aux sorcières qu'il y a eu à Salem, et puisqu'on est dans une chasse à la sorcière, en fait, on cherche quelqu'un. C'est des degrés de lecture ou non, pas du tout?
Oui,
c'est...
peut-être aussi. Oui,
okay, bah, d'accord.
C'est une ville que je connais un petit peu. J'y suis allé à quelques reprises, et notamment quand j'étais enfant, il y a toute cette histoire, comme vous le dites, et c'est vrai, de la chasse aux sorcières qui a eu lieu et dans lesquelles les sorcières étaient jugées,
exactement,
pendues, etc. Il y a eu toute cette chasse aux sorcières qui est reprise par Arthur Miller ensuite, qui fait une comparaison entre la chasse aux sorcières de l'époque et la chasse aux communistes
dans
à l'époque
années,
où il écrit, dans les années 60 et quelques, et où il met tout ça en parallèle. Et c'est vrai que je reprenais aussi un peu dans cette idée, ou ce que je voulais reprendre un peu, c'était l'idée de ce que les autres pensent, de quand les gens se liguent ensemble, et quand la rumeur, que le qu'en dira-t-on, condamne quelqu'un dans ces petites villes ou dans ces grands réseaux qui sont les nôtres, hein, parce que je crois que ce qui a changé, alors c'est un livre qui se passe en 99, et ce qui a changé beaucoup par rapport à aujourd'hui, c'est quand même qu'on a ces réseaux sociaux dans lesquels on est.
Il y a 20 ans, c'était moins.
Il y avait moins ça. Et aujourd'hui, on est plus protégé. Et tout d'un coup, on peut être au milieu d'une horde comme ça de gens, d'Abdavid, etc. Et c'est difficile.
Salem, qui est une petite ville, pas très loin de Boston, d'ailleurs.
Absolument, une demi-heure de route.
Moi, je savais pas que c'était là-bas, tuer les sorcières, en fait.
Si, il y a même une visite. Les gens tapent sur Internet, on peut se faire visiter Salem. Les sorcières, c'était où? Comment ça s'est passé, etc.
Il y a un musée.
Il y a un musée, ouais, aussi.
Un peu kitsch, mais sympa.
Ouais.
Bien. Alors, cette question dont vous parliez, savez-vous pourquoi vous écrivez? C'est une question importante pour Harry Kéber et pour Marcus Goldman. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous écrivez?
Moi, j'écris parce que je suis lecteur avant tout et que j'écris pour avoir ces sensations de lecture, mais encore plus fortes. Ce que j'aime quand je lis, c'est sortir justement de mon propre monde. Je ne suis plus dans le bus ou dans le métro, ou dans le train ou chez moi. Je suis dans le roman. Et je trouve que cet acte, il est hyper fort. Et c'est très souvent ce que je dis quand je conseille à des gens qui ne lisent pas encore. Et je crois que tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore. Je dis, de lire, ça commence par avoir un livre avec soi. C'est pas de se dire, bon, alors là, maintenant, je vais me bloquer tous les mardis pendant 3 heures, je m'enferme chez moi et je lis. Non, lire, c'est avoir un livre avec soi. Et quand on a 5 minutes, parce qu'on attend le bus, ou qu'on attend quelqu'un, ou qu'on a vraiment 5 minutes, on prend son livre, on lit. Et c'est là où on se rend compte de cette force de remplissage de la vie. À quel point on a des vies où il y a voilà, des moments de pause, que souvent, on a notre téléphone portable avec nous. Et moi aussi, hein, c'est pas un jugement, mais on peut faire de ces moments des vrais moments pour soi. Et la lecture, elle permet ça.
Et vous êtes avec nous aujourd'hui, Joël Dicker, l'invité du Book Club, à l'occasion de l'affaire Alaska Sanders. C'est une suite d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Joël Dicker qui est notre invité à l'occasion de la publication de l'affaire Alaska Sanders chez Rosie and Wolf, la maison d'édition qu'il a créée. Retour au polar pour vous, pour la nouvelle enquête de Marcus Goldman et Perry Gallowood, finalement.
Oui.
L'écrivain et le sergent.
Qui reprennent du service 10 ans après la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et puis surtout pour moi, c'est important parce que ça me permet de boucler un projet que j'avais. Et je parlais avant du succès et d'arriver à savoir pourquoi on écrit vraiment et de ne pas écrire pour les autres, mais arriver justement à revenir à ce sentiment de création, de ce qui nous stimule vraiment. Et j'ai eu justement, quand j'ai écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ben j'avais écrit tous ces livres dont je parlais avant qui avaient été refusés les uns après les autres. Et quand j'écris ce livre-là, quand je commence à l'écrire, j'ai encore aucun roman de paru. Et je me dis, bon, ben, personne ne va lire celui-là aussi, c'est logique. Hein. Et je me dis, je vais écrire vraiment un livre autour de ce que j'ai envie de faire, envie d'écrire, m'enlever un peu toutes les barrières qu'on peut avoir parfois en disant, mais qu'est-ce que les gens vont penser, c'est un livre qui se passe aux États-Unis, j'écris en français, le livre techniquement se passe en anglais, comment je fais? Donc je me suis affranchi de toutes ces questions, je me suis dit, je raconte une histoire pour le plaisir. Et j'avais envie d'en faire une trilogie. Et puis le livre est sorti, et j'avais même commencé à avoir une idée pour ce tome 2, puisque je voulais en faire 1, 2, 3. Et puis le livre est sorti, succès immense, qui me rend évidemment très heureux, parce que j'ai enfin des gens qui me lisent. Mais à ce moment-là, je me dis, je ne peux pas faire ce tome 2 comme ça, parce que les gens vont se dire, bah c'est grossier, c'est des grosses ficelles, le 1 marche, on fait le 2. C'est classique. Et je sentais bien que j'aurais eu de la peine à faire comprendre et à convaincre que c'était un projet initialement que j'avais voulu comme ça. Et je me suis dit, je ne vais pas faire ce tome 2 là maintenant. Si je dois le faire un jour, je le ferai. Et puis j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Le Livre des Baltimore, qui reprend un peu ce personnage de Marcus, qui raconte...
Donc lisez, vous êtes venu aux Bahamas?
Non, alors dans le livre, oui, mais
c'est pas vraiment. C'est ça qui est drôle.
Mais pas en vrai. Et ce livre, je me suis toujours dit, le livre des Baltimore sera un tome 3, parce qu'il y avait un peu de place chronologique.
C'est la famille Goldman, de toute façon, c'est les cousins.
Ouais, c'est les cousins, ce sera un tome 3, et je me garde la place de faire un tome 2 si un jour j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette trilogie. Et puis, j'ai eu envie d'essayer, là, en 2020, pendant le confinement. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, ou jamais. Je sais pas, j'ai eu l'impression que, en même temps, voilà, je passe d'autres étapes dans ma vie, je vais sûrement écrire d'autres choses que des polars, et j'avais le sentiment que c'était un moment que je devais prendre maintenant. Et j'ai essayé de faire ce tome 2, et voilà donc ce tome 2 qui est le retour de Goldman et de Gallowood, en même temps des livres...
Vous partez pas de zéro, là, donc. Vous partez plus
non,
de zéro.
Non, là, c'est un peu différent. Ouais. C'est un autre exercice, parce que je pars pas de zéro, contrairement aux autres livres, mais donc j'ai la fin de Harry Kéber, c'est-à-dire que je sais, je connais déjà ce monde, cet univers, ces deux personnages, et ce qu'il y a eu avant. Je sais où je vais, puisque à la fin du livre, il y a cet engrenage, enfin, ça doit rentrer, si vous voulez, dans les traits, dans le livre du livre des Baltimore qui vient après. Mais toute l'enquête est sans plan. C'est-à-dire que j'ai ce cadre avec ce début et cette fin du livre, mais je ne sais pas encore si je vais faire un polar ou pas. Ça aurait pu être aussi Perry et son pote qui vont faire un tour en voiture, qui traversent les États-Unis, qui parlent de la vie. Ça aurait pu ne pas être polar. Et puis voilà, j'ai commencé. J'ai eu envie de raconter un peu la vie de Perry, puis autour de ça, de mettre une enquête, parce qu'au fond, ça me plaît bien tout ça.
Dans le livre, il y a deux punchlines. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais il y a deux punchlines que j'ai particulièrement appréciées. La première, c'est les alarmes, c'est bien, un flingue, c'est mieux. C'est quoi la ref? C'est quoi la...
Moi, c'est sorti du contexte.
C'est sorti complètement du contexte.
Le principe des punchlines, c'est qu'elles sont sorties du contexte la plupart du temps. Hein.
C'est un flic dans le livre, je ne vais pas en dire trop, mais c'est un flic dans le livre qui a quitté son travail et qui vend des alarmes. Puis en fait, il dit que ça ne sert à rien.
Ouais.
Et qu'on peut mettre des alarmes, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut savoir, un flingue à la maison, si jamais il y a quelqu'un qui rentre chez vous.
Mais elle a un autre sens, cette punchline, pour vous? Non, elle était placée comme ça, parce qu'elle est très bien dans le livre. Elle dit tout, en fait.
Elle était vraiment pour raconter un peu ce mec qui est désabusé et dans son métier de flic et dans ce qu'il fait après et qu'il n'y croit pas, en fait. Il passe sa journée à vendre des trucs aux gens et il y croit absolument
pas. Il n'y croit pas du tout. Il sort ça, j'ai dit, putain, c'est carrément génial, le truc de dire ça. Quand on vend des alarmes, en plus, c'est dingue. Et la deuxième, c'est la richesse ne fait pas le bonheur, la pauvreté non plus. J'aime bien ça.
C'est sorti de son contexte.
Complètement, ouais, c'est complètement sorti de son contexte.
Mais oui, absolument. Bah, c'est aussi tout ce rapport, parce que Marcus, cet écrivain qui a son succès, tout ça.
Marcus Goldman.
Qui a aussi ce rapport à la vie. Et puis peut-être que ça me permet aussi de parler un peu de ce monde dans lequel on vit, dans lequel je vis aussi, hein, qui est un monde très axé sur l'image, sur les réseaux, sur, on est sur un Insta, on est en train d'attendre les likes, etc. Et pour les plus jeunes, je trouve dur parce que on a vraiment ce truc où on est dans l'image, on essaie de se construire une image de soi qui est jamais à la hauteur de ce qu'on est vraiment, puisque quand on met une photo, on est souvent en train de mettre un filtre, on en fait plusieurs. Quand on fait une photo de soi, on en fait 4, 5, 6, 10, et on choisit celle qui est le mieux. C'est comme si quand on est nous-mêmes, parce qu'on est nous-mêmes, on est dans le moment, on n'était pas assez bien et qu'on avait besoin d'être toujours dans la transformation. Et je trouve que c'est un mauvais signal qu'on envoie, parce qu'on est bien comme on est. Et ce que Marcus dit avec ces mots-là aussi, c'est de raconter qu'au fond, même malgré le succès et tout ce qu'on peut avoir, etc., mais en fait, ce qui reste à la fin, c'est ce qui reste de nous quand on est seul, seul à seul avec nous et seul à seul avec ceux qu'on aime.
Alors, j'avais une question, parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute et j'ai regardé beaucoup de choses sur vous. Et il y a un thème qui revient souvent, c'est la distance.
Mm-hmm.
Et au début, je prenais ça pour une espèce de contradiction. Et après, je me suis dit non, c'est une juxtaposition complémentaire. Parce que je m'explique, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une recherche de sens, parce que vous venez d'expliquer. Une recherche de sens, une recherche de partager quelque chose de profond et en même temps ne pas être acteur, être peut-être le témoin et de dire. En fait, voilà ce qui se passe.
Ouais.
Et je me posais la question, est-ce que c'est pour ça que vous faites des romans et pas des choses qui vous concernent directement? Parce que j'assiste à une espèce de encore une fois, pas de contradiction, mais de juxtaposition de volonté, j'ai envie de dire.
Ouais, merci, c'est vrai. Ce que j'essaye de faire, c'est de donner au lecteur aussi la possibilité de réfléchir un peu par rapport à lui. Sans être en train de lui marteler ce que je pense être une vérité ou ma vérité ou de la morale ou ce genre de choses. Et je trouve que ce qui est important justement, c'est le dialogue, parce que le dialogue, quand on discute ensemble, et qui est une chose qu'on a de la peine à faire aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde, on sort de 2 ans de pandémie de coronavirus où on n'ose pas dire si on a eu le vaccin ou pas, parce qu'après on se fout sur la gueule, etc. Alors qu'on pourrait.
Vous êtes vacciné ?
On a le droit de se vacciner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a complètement
Allez,
le droit.
Est-ce que vous êtes vacciné ?
Tellement facile, ouais. Tellement gratuit.
Trois fois, regarde.
Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Toujours.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si on est pour ou contre, c'est d'arriver à discuter. Et je trouve grave d'être dans un monde où on n'ose pas donner son avis parce qu'on ose, on a peur que ça se foute sur la gueule à la fin. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire, ben voilà, on peut avoir un avis, on peut en avoir un autre et on peut vivre ensemble. Et on peut être ensemble parce que c'est justement parce qu'on diverge, parce qu'on a des avis qui sont pas les mêmes, qu'on avance, qu'on construit, qu'on va à gauche, qu'on va à droite. Le monde incroyable dans lequel on vit, on a des fusées qui vont sur Mars, qui atterrissent toutes seules, elles se sont construites parce que justement on a des gens qui sont pas d'accord, qui discutent, qui essayent qui en s'opposant construisent quelque chose. Et ça justement, pour arriver à faire ça, et je réponds à votre question justement avec ça, c'est de dire que on doit réussir à pousser les gens à réfléchir un peu, à pas être dans le jugement, à être dans la discussion, à être dans l'explication, et où chacun peut arriver ensuite à essayer de comprendre. C'est difficile de pas juger. Mais je crois que si on arrive à pas juger, à faire abstraction de ça, et être dans l'écoute, dans la compréhension, ça veut pas dire qu'on justifie, hein, vous savez qu'on a, et c'est la difficulté de la justice souvent, quand elle doit juger, et elle doit essayer de comprendre. Ça veut pas dire quand on comprend que quelqu'un fait quelque chose, et qu'on va dans les antécédents de quelqu'un. Je parle de la justice, parce que c'est souvent un moment où on va dans les antécédents, on dit, mais vous comprenez, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ça ne veut pas dire qu'on justifie ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on essaie de comprendre. Et quand on est dans l'action de comprendre quelqu'un, de comprendre pourquoi il est comme il est, alors c'est une main qu'on tend pour dire, voilà, je t'entends, je te comprends, j'écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ça, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand, je trouve, qu'un monde dans lequel on s'affronte, on se tape dessus, etc. Et ce que j'essaie de faire, et merci beaucoup pour cette question, ça me permet justement de le dire un peu, c'est j'essaie très modestement, avec du divertissement, qui n'est pas un gros mot, Je trouve que le divertissement, c'est quelque chose de très important.
C'est du polar.
C'est du polar, mais je dis, au-delà du polar, l'idée, c'est que c'est un roman qui est divertissant, c'est pas une thèse, c'est pas un essai, c'est pas quelque chose dans lequel je m'arrête, c'est de dire, je vous raconte une histoire, on s'assoit ensemble, je vous raconte une histoire qui est de base un divertissement, quelque chose dans lequel je raconte, voilà, il y a un flic qui enquête, c'est passé ci, ça, et qui me permet au milieu de ça d'essayer de parler un peu de choses qui me tiennent à cœur et essayer de poser un peu des questions très larges sur le sens de la vie et ce qu'on construit ensemble.
Ouais, mais ce que je veux dire, que en tant que lecteur, c'est que le jeu consiste à savoir de trouver qui a tué.
Oui.
Bon. C'est quoi le crime parfait aujourd'hui? Et est-ce que les lecteurs viennent vous voir en disant, voilà, de toute façon, j'ai trouvé la page 120, j'ai... Et est-ce que pour vous, le défi, c'est qu'ils trouvent le plus tard possible?
Oui, évidemment, parce que il y a un jeu. Il y a un jeu dans un roman qui est le jeu que le romancier et le lecteur jouent ensemble. Et c'est ça que j'aime bien dans un livre, c'est qu'on existe ensemble. Il n'y a pas de roman s'il n'y a pas de lecteur. S'il n'y a pas un lecteur qui lit un livre...
Ça veut dire qu'on n'est pas écrivain si on ne vend pas de livres?
Non, j'ai pas dit ça.
Non.
J'ai dit, il n'y a pas de roman. Le roman, il n'existe pas s'il n'y a pas au moins un lecteur qui est en train de le lire. Sinon, c'est juste un objet, c'est des pages composées ensemble, posées sur une table. C'est tout. Du moment... Alors, il a existé une fois parce que celui qui l'a écrit a lu ce livre, il l'a vécu une fois, mais ensuite, ce sont des pages qui vont exister parce qu'il y a un lecteur qui dit, OK, j'ai envie de jouer à ce jeu, et qui prend le livre et qui imagine. Mais du coup, s'il peut imaginer ça, il le doit à l'écrivain. Donc c'est là où je dis qu'il y a un jeu qui se nourrit l'un de l'autre et que chacun a besoin de l'autre. Si vous donnez une conférence et qu'il y a 50 personnes et que vous commencez à parler, que tout d'un coup, tout le monde se lève, vous allez vous taire, vous allez vous dire oh, « Oups !» et vous allez arrêter de parler parce que eux sont là parce que vous parlez, mais s'ils s'en vont, vous n'avez plus rien à dire puisque personne n'est là pour entendre ce que vous dites. Et dans le livre, je trouve qu'il y a un peu ce jeu-là. Donc c'est justement ce que j'essaie de faire, de donner de la place à chacun. Donner de la place au lecteur, donc je décris pas tellement ce que je fais, je décris pas tellement comment sont les personnages, ni les décors, ni rien, je laisse au lecteur cette place. Et en même temps, j'essaye aussi, moi, de jouer avec lui en glissant des indices, parce qu'il faut que le lecteur puisse découvrir quand même, parce que si c'est impossible, il est frustré, il se dit, attends, je découvre maintenant un personnage qui arrive à la page 570 sur 550.
Là, c'est la fin, là, c'est
au-delà où on dit, quelle arnaque, tu vois, ça, tu veux pas non plus. Mais tu veux donc que le lecteur puisse comprendre, mais qui ne comprennent pas. Tu veux qu'à la fin, ils disent « Ah, j'aurais pu le savoir et je ne l'ai pas su. » Et ça, c'est un jeu amusant pour moi, auteur, oui, évidemment.
Mais est-ce que c'est aussi pour ça que vous-même, vous ne voulez pas savoir qui fait quoi au début?
Bonne question. C'est probablement aussi pour ça que moins je sais et mieux je me porte, parce que ça veut dire que je peux
Vous ne laissez pas d'indices.
Je ne laisse pas d'indices. Et ça veut dire que tout est possible.
Ouais.
Mais après, je me dis que si je savais déjà ce qui se passait... j'écrirai peut-être pas ce livre parce que je connais pas la fin.
Eh oui, la vie est un roman, comme on dit. Et Joël Dicker est notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ah, c'est bon d'être heureux, Steve.
Très, très, très bon d'être heureux.
T'imagines?
Ouais. C'est tabou d'être
heureux. Mon auteur préféré, Joël Dicker.
Exactement.
Et mes experts préférés, Patrick Soulaï et Steve, vous imaginez?
Même si la question arrive à la dernière mi-temps, j'ai remarqué que vous êtes celui qui vend le plus de livres en France, au fureur de ma part. Et pourtant, vous n'êtes pas si connu que ça. Quand on interroge un panel de gens, comment vous expliquez ça en fait?
C'est ce qui est beau, c'est que c'est pas tellement à propos de moi, c'est à propos de mes livres. Et c'est ce qui me plaît parce que c'est un succès. Souvent les gens me disent, ah mais quel succès, mais comment tu fais, etc. Mais je dis, mais en fait c'est un succès qui est vraiment lié à mes livres. Et c'est pas, je le dis, c'est hyper intéressant parce que souvent les gens, je vois même comme ils m'abordent de façon très, parfois timide, en me disant, j'ai beaucoup aimé ce que vous faites. C'est pas par rapport à moi. Puis j'ai vu parfois des acteurs, des présentateurs télé dans la rue, on les appelle par leur prénom, puis les gens ont l'impression, c'est agressif presque, parce qu'ils ont l'impression de les connaître. C'est un ami qu'ils retrouvent. En disant, ah, parce que ça fait 15 ans qu'ils les voient à la télévision, dans leur salon, et je comprends, pour moi, c'est un livre. Donc, les gens ont ce rapport en disant « Ah, j'ai lu votre livre, j'ai aimé votre travail. » Il y a un peu ce biais. Et il y a aussi des gens qui me disent « Vous êtes qui, Joël ? Je ne connais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Des livres ? Je ne connais pas. Qu'est-ce que vous avez écrit comme livre ?» Harry Kébert. « Ah, j'ai lu votre livre !» Et ça, j'adore. Ouais. Parce que voilà, c'est le livre avant tout. Ouais. C'est ça qui me plaît.
C'est beau.
Et dans la rue, quand on vous sourit, alors on sourit à qui ?
Ça dépend. Mais ça dépend où je suis. À Genève, où j'habite, évidemment que je suis plus connu que dans des villes où on ne me lit pas. Mm. Mais c'est ça le succès aussi qui est agréable. C'est que, puis, à part quelques cas, des vedettes connues dans le monde entier qui ne peuvent pas aller ou qui vont, que ce soit en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Nord, et tout le monde sait qui ils sont, en général, vous êtes connu à votre niveau. Et ça veut dire que si vraiment... le vedettariat vous insupporte, prenez un avion une heure et personne ne sait qui vous êtes. C'est assez facile.
Et la suite s'appelle donc l'affaire Alaska Sanders chez Rosie and Wolf, la maison d'édition que vous venez de créer. Auto-édition ou édition ?
Non, c'est pas la même chose. Auto-édition qui existe, hein, c'est vraiment un concept dans lequel quelqu'un fait absolument tout. Et c'est très bien aussi. Hein. Mm. Et c'est d'ailleurs, c'est quelque chose qui est super pour des tas de gens qui n'ont pas d'éditeur encore et qui peuvent, grâce à des systèmes d'auto-édition, se faire connaître, se faire lire. Mais ça veut vraiment dire qu'on fait son texte tout seul, on le corrige tout seul, on le crée tout seul dans un format, on le fait ça tout seul, on l'imprime seul, on le diffuse seul. Oui. Moi, j'ai créé une maison d'édition dans laquelle j'ai des collaborateurs qui ont des postes dédiés comme dans une maison d'édition à part entière et qui s'occupent de toute la fabrication, de la diffusion, de la stratégie, du marketing. Et j'ai surtout pas l'intention de faire paraître que mes livres à moi, ça serait un peu triste. J'ai envie de partager d'autres textes, d'autres livres. Et ça, c'est dès 2023. 2022, c'est particulier parce que j'ai tout mon catalogue qui ressort. Donc, il faut que je m'en occupe un peu. Puis surtout, ça
fait que vous avez récupéré, en fait.
Que j'ai récupéré, ouais.
Vous aviez les droits sur vos livres.
J'ai toujours les droits sur mes livres. D'accord. Et donc, quand De Fallois a fermé, ben, j'ai pris mes livres avec moi. Et puis, surtout, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mes lecteurs en librairie parce qu'en 2020, bon, on était tous chez nous, malheureusement. Et donc, ça, je me réjouis. Donc, je vais utiliser 2022 comme année de retrouvailles pour mes lecteurs. Et puis, à partir de 2023, je vais commencer à faire paraître d'autres titres. Doucement, pas beaucoup plus que 2 par année, ce qui pour moi est déjà bien, parce que c'est une petite maison, mais c'est aussi, j'ai pas envie d'ajouter à la masse de tous les livres qui paraissent, j'ai envie de proposer des livres que je peux défendre moi, dont je peux expliquer pourquoi ceux-là, j'ai vraiment envie de les faire, envie de les partager avec vous, parce qu'ils ont un intérêt à mes yeux particulier en ce moment.
Travail d'un éditeur.
Travail d'un éditeur, ouais. Absolument.
C'est assez impressionnant, vous allez faire 44 dates.
Ouais.
C'est... Beaucoup de gens, quand ils arrivent là où vous êtes, en fait, ils disent, bon, ça va se faire tout seul, la maison d'édition vont se débrouiller. Et quand je regarde, je vois Genève, Lausanne, Paris, Bruxelles, Nantes, Rouen, c'est...
Bah, vous savez,
il y a pire, hein, attends, là, je vais aller plus loin.
Non, mais. Il y avait Alès. J'ai pas
non,
cité.
Non, c'est bien Alès, c'est bien Alès. On a un gros éditoire, Alès.
Non, mais vous savez, honnêtement, moi, mon plaisir, mon bonheur, c'est voir ses lecteurs.
Ouais, ça se ressent, hein, vraiment, ouais.
Et puis, vraiment, le jour où j'ai plus envie de faire ça, il faut que j'arrête. Le jour où je suis blasé, le jour où j'ai même plus de. Enfin, voilà, c'est grâce aux lecteurs que je suis là avec vous. C'est les lecteurs qui me font vivre. C'est les lecteurs qui me font rêver. Enfin, vraiment, je leur dois tout. Et le jour où j'ai plus envie d'aller en librairie, il faut que j'arrête de faire ça parce que j'ai plus ma place dans le monde du livre, c'est sûr.
Et quand Patrick viendra vous voir à Rouen, donc, est-ce que vous dédicacerez à Patrick qui connaît désormais toute la vérité sur l'affaire Alaska Sanders ?
Non, mais je le fais pour ceux qui ont lu Harry Kébert maintenant et qui l'ont déjà lu et qui me disent que je l'ai déjà lu, ben, un clin d'œil au livre.
D'accord.
Dans le livre, je le mets aussi.
C'est personnalisé, les gens qui viennent, vous faites comment vous avez une réserve de dédicaces,
ouais. Bah ça dépend, j'ai une réserve, mais surtout ça dépend de l'interaction. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui racontent quelque chose à dire, qui ont toute une vie à raconter, et c'est bien. Il y a des gens qui sont tout d'un coup timides en me disant mais j'avais plein de choses à vous dire et puis je sais plus très bien quoi dire. Et puis c'est pas tant le moment ou c'est pas tant ce qui est inscrit sur le livre. C'est vraiment le moment de la rencontre, hein, de l'interaction, de l'échange.
Ouais.
Parce que ce qui est écrit, au fond, ben, c'est un livre. Enfin, il y a déjà eu cet échange par l'intermédiaire des lignes. Il a déjà eu lieu. Alors que ce moment, les yeux dans les yeux, cette poignée de main, en tout cas en Suisse, on peut de nouveau serrer les mains. Et en France, on pourra aussi, là, de pouvoir de nouveau avoir ce contact humain, c'est très particulier, c'est très fort.
Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand même.
Ouais,
elle est géniale, celle-là, j'ai adoré.
Ben, c'est la définition de l'amitié. Les gens qu'on aime et nos potes surtout, ben en fait on se rend compte qu'ils nous saoulent quoi. Non mais bien, quand on les connaît bien. Mais c'est justement parce qu'on sait pourquoi ils nous saoulent. Et puis j'en reviens, en fait surtout quand quelqu'un nous agace, qu'il a des défauts, il a des traits qui nous énervent, Quand on les connaît bien, on sait pourquoi. Ce que je disais avant, hein, on les comprend. Et souvent, les défauts qu'on peut avoir, on peut les expliquer. Les gens qui nous connaissent bien, ils disent, je sais pourquoi il est comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans la compréhension, dans l'écoute. Et les vrais amis, c'est les gens qui peuvent faire ça.
Si on continue sur la lignée de la compréhension, on est en 2022, il y a une belle histoire qui est en train de... Belle, on verra. Une histoire internationale qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Qui est la guerre en Ukraine et tout. Je me posais la question, si vous deviez raconter quelque chose sur cet événement, quel angle vous intéresserait? Et deuxième question, c'est quel serait pour vous le crime parfait?
Alors c'est deux questions très différentes. Attention, pour l'Ukraine, je pense que je prendrais l'angle de ce qui me touche au fond le plus, au-delà des images et au-delà du drame humain qui se joue. Et si je vais au-delà de ça, ce qui me frappe le plus, c'est une démocratie, un pays démocratique dans lequel le président a été démocratiquement élu, ce qui peut être la France, la Suisse ou l'Espagne, ou les pays de l'Europe, qui est renversé par un régime autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous rappelle quelque chose qu'on sait déjà, que la démocratie est certainement le régime le plus fragile. Pourquoi ? Parce qu'il dépend de ceux qui la font. Et ceux qui font la démocratie, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les gouvernants, c'est pas notre président. C'est ceux qui la font, ce sont ceux qui votent. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Et à chaque fois qu'on ne va pas voter, ou à chaque fois qu'on vote mal, on a des élections là qui arrivent, à chaque fois qu'on ne va pas voter ou qu'on vote mal en disant de toute façon je m'en fous, ou c'est des pourris, ou ça compte pas, ou je fais ce que je veux, à chaque fois qu'on a ce geste-là, on crache au visage de ceux qui se sont battus, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont en train de mourir maintenant pour la démocratie. Et donc notre geste à nous, notre devoir à nous, notre exigence, c'est justement ça, dans se vivre ensemble, c'est s'écouter, c'est se parler, c'est aller voter, c'est réfléchir à pourquoi on vote et ce qu'on vote, et réfléchir à ce qu'on veut construire ensemble. Et l'Ukraine, je la raconterai comme ça, hein, le péril de la démocratie, mais qui n'est pas une nouveauté. Ouais. Parfois, on oublie à quel point la démocratie est fragile, mais elle est fragile tout le temps. Elle n'est pas quelque chose qu'on a acquis pour toujours, elle est quelque chose qu'on doit préserver, pour lequel on doit se battre. Et la première étape, c'est de voter bien et d'être présent pour les autres.
Et le crime parfait, donc ?
Le crime parfait, j'avais envie de raconter un crime parfait dans mon livre. Et je me suis rendu compte, au début, je pensais, et c'est souvent ça, je me dis, le crime parfait, c'est le crime où il n'y a rien, il n'y a pas de preuves. Les flics viennent sur l'ivoire, il y a un corps ici, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a absolument rien. Et je me suis dit, en termes de narration, c'est un peu sec, en fait, parce qu'on tourne en rond, il n'y a rien. C'est la fin du livre. À la page 3, votre livre est fini. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme idée ? Je me suis dit, et si le crime parfait, c'était un crime qui était construit ? Un crime qui allait construire, qui allait amener les flics très rapidement à la piste d'un suspect, avec tout d'un coup des preuves qui l'accablent, un suspect qui avoue, et peut-être que c'est pas lui. Mais j'en dis pas plus.
Voilà.
Non, surtout pas.
On a tenu une heure sans en parler, enfin en parlant sans en parler. Non. Qu'est-ce que la ville de Stanstead a de particulier ?
Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Je ne sais pas.
Non, elle n'est pas entre le Canada et les États-Unis.
Ah, vous avez bien lu mon livre.
Elle a une bibliothèque qui est un opéra.
Oui, et qui
vient d'être fermé 20 mois.
Absolument, vous savez tout. Et c'est un endroit assez dingue parce que vous avez cet opéra, bibliothèque, qui est à cheval sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et vous pouvez rentrer par une porte qui est au Canada et sortir par l'autre qui est aux États-Unis. Donc si vous avez un peu de trafic à faire...
Dans votre précédent livre, il y avait justement cet hôtel. Et là, c'est un monument.
Oui.
Hein, début du 20e.
Ouais, j'aime bien ces endroits qui racontent quelque chose. Hein.
Philippe fait très attention aux détails. Il connaît même les plages de sable rose.
Non, je disais qu'Arbor Island, j'expliquais à Steve qu'Arbor Island, les plages sont de sable rose.
C'est vrai.
Une des rares au monde d'ailleurs à avoir le sable rose.
Vous avez raison.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Ouais. J'ai une question pour vous, c'est quoi une maison d'écrivain ?
C'est un endroit où on n'a pas les interférences de la vie de tous les jours. C'est un endroit où on est à l'écart peut-être de ce qui peut nous tracasser, des soucis, du boulot, de la famille, de ce genre de choses. Et on a vraiment du temps pour soi, pour être en lecture de soi-même et de ce qu'on veut raconter à travers ce qu'on écrit.
Et vous avez eu une maison d'écrivain, vous ?
Non.
Pourquoi ? Vous vendez pas assez de livres ?
Je sais pas.
Vous n'êtes pas assez riche ? Vous n'avez pas eu 2 millions de dollars ?
Non, mais vous savez, la maison d'écrivain, en tout cas dans ce livre, c'est un endroit pour quelqu'un qui n'a pas un endroit à lui. Moi, j'ai la chance, à Genève, d'avoir, dans une ville plutôt calme, d'avoir un petit bureau dans lequel j'ai ça. Je sais que quand je vais dans le bureau, je pose le téléphone avant, personne ne m'appelle, on ne vient pas me déranger, et j'ai un endroit où je suis vraiment au calme, et ça, c'est important.
l'affaire Alaska. Sanders vient de sortir. Merci Joël Dicker d'être venu en parler sur Beurre FM.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Bon dimanche à tous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.